France Culture.
Et les midis, c'est reparti tout à l'heure. À 13h, je recevrai le romancier et journaliste Alfred de Montesquieu pour son livre « Le crépuscule des hommes ». Mais tout de suite, place à Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie. Alors que nous commémorons les 50 ans du deuxième prix Goncourt de Romain Gary, le romancier n'a toujours pas livré tous ses secrets. Deux actualités en ce mois d'octobre. Kervin Speer publie chez Gallimard « Monsieur Romain Gary, alias Émile Ajar ». Au bon soin du Mercure de France, dernier volet de sa trilogie. Et en parallèle, toujours chez Gallimard, paraît un inédit, une correspondance de Gary avec l'un de ses amis de jeunesse. Et c'est la petite fille de Sigurd Norberg qui a trop trouvé ses lettres. Et c'est le dossier du Point Culture du jour. Charlotte Norberg, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous avez établi et préfacé l'édition de l'inédit de Romain Gary qui vient de paraître chez Gallimard, Lettre à Sigurd 1937-1944. Qui était Sigurd ?
Alors Sigurd était mon grand-père tout simplement et j'ai retrouvé ses lettres en faisant du rangement et en essayant de combattre la poussière dans son ancien mas en Provence qu'il avait acheté au moment où il avait pris sa retraite. Donc ça date. Elles étaient là, tapis au fond d'un placard depuis, je sais pas, 40 ans, 50 ans. Et voilà, j'ai mis la main dessus totalement par hasard.
Mais vous saviez que votre grand-père entretenait une relation avec Romain Gary ?
Oui, bien sûr, ils étaient camarades de classe au lycée Masséna à Nice, fin des années 20, début des années 30. Donc oui, bien sûr, tout à fait, il était bien connu de tous les membres, des enfants de Sigurd hein, et de ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs sont très souvent cités dans ses lettres, c'est ça qui était très amusant pour moi, c'est que j'ai retrouvé tous les membres de ma famille dans ses lettres, mes arrière-grands-parents, ma grand-tante, mon grand-oncle que j'ai pas connu malheureusement, mon grand-père, etc.
Ce qui est émouvant quand on les lit aussi, c'est que ce sont des lettres écrites par un jeune homme. Enfin, alors on a évidemment que les lettres de Romain Gary, on n'a pas les lettres de votre grand-père, donc c'est une correspondance à sens unique, mais ils se parlent en tant que jeune homme de 20 ans à peu près, hein.
Oui, ils ont une vingtaine d'années quand ça démarre, mais ils se connaissent depuis plus longtemps que ça. Donc, ils se sont connus adolescents, en fait. Et ils ont un peu... Alors, Romain Gary avait, c'est ça qui est très étonnant, enfin étonnant, pas étonnant d'ailleurs, mais qui est intéressant pour les lecteurs de Romain Gary, c'est qu'on retrouve un Romain Gary déjà très... très avec une personnalité comme ça, très exubérante, très exaltée, qui n'était pas propre à la période de l'adolescence. Il a continué à être comme ça toute sa vie. On est quand même dans les années avant la guerre, où les choses étaient sans doute déjà assez politiquement assez tendues. Donc, Romain Gary est déjà engagé dans toutes sortes d'idées, de discours, de révolte. C'est déjà, voilà, c'est Romain Kassef. On peut le reconnaître déjà pratiquement, oui. Il est tout le temps en quête du réconfort et de l'amitié de mon grand-père. Il lui dit tout le temps, mais tu es mon meilleur ami, tu es le plus proche de mon cœur, il n'y a que toi qui m'a jamais déçu. Même les chiens, même les chats m'ont déçu. Toi, jamais. Et en même temps, il le maltraite beaucoup. Il l'appelle mon vieux con. Voilà, mais c'est toujours avec un humour très féroce et c'est vrai que j'ai beaucoup ri quoi en lisant ces lettres, elles sont drôles. Il y a plusieurs adjectifs qui sont sortis là par des gens qui les ont lus, des gens extérieurs. Il y a des mots qui viennent, c'est facétieux, truculent, ce genre de mots. C'est vrai que c'est pas banal quoi. Romain n'était pas un ami ordinaire, ça c'est certain.
Alors vous avez décidé de publier des écrits qui était destiné à une personne, à votre grand-père, qui n'était pas destiné à être publié. Est-ce que c'est un choix qui n'est jamais anodin de faire ça ? Pourquoi avoir décidé de partager aux lecteurs de Romain Gary ces lettres-là ?
Justement, à cause de ça, Romain Gary est un auteur qui est énormément lu aujourd'hui. Lui qui était si malheureux parce qu'il se pensait ringard et passé de mode, il est extrêmement lu, il est enseigné dans les écoles, ce que je trouve... merveilleux pour lui. Et je trouve que c'est très intéressant pour les lecteurs d'avoir accès à quelque chose de nouveau, des écrits qui sont nouveaux, et des inédits, c'est pas si fréquent. Et en plus, qui sont des textes touchants, parce que j'ai dit que j'ai ri en lisant ces lettres, mais j'ai aussi été très émue, parce que On fait immédiatement le rapprochement avec La Promesse de l'Aube. Mmh. Finalement, le fond, c'est en lisant ces lettres, je me suis dit, finalement, le fond est très vrai pour les choses qui l'ont vraiment meurtri.
Oui, notamment le lien à la mère et aux mères, d'ailleurs, hein, qui est très présent dans ces lettres-là.
Le lien à sa mère, qui est, voilà, il était complètement seul avec sa mère, ce garçon. Il n'y avait que lui et sa mère. Et,
mais on les lit hein, dans ce lettre. Il s'attache aussi à votre grande-tante, je crois,
oui,
via son ami.
Oui, c'est ça qui est très émouvant. C'est que chez nous, il y avait une vraie famille qui était comme elle était. C'était pas toujours facile. Il n'y avait pas de sous. Il y avait un papa très, très sévère et pas facile. Mais il y avait une vraie famille et on voit bien que ça lui plaisait et qu'il aimait être au contact de cette famille. Et on comprend que ce garçon qui a perdu sa mère pendant la guerre, elle est morte sans savoir s'il était en vie, s'il allait survivre. On peut comprendre qu'il a jamais trouvé la paix après ça. Et déjà que c'était un caractère torturé de nature, je pense que ça ne l'a jamais laissé en paix, cette histoire, et que c'est pas une légende. Je pense que ça a vraiment été quelque chose de terrible pour lui, il me semble.
Dernière question, Charlotte Norberg. Nous ne pouvons lire du coup qu'une partie hein, de la correspondance. Alors ça provoque chez le lecteur toujours un réflexe de combler les trous, d'essayer d'imaginer ce que votre grand-père lui écrivait ou lui répondait. Est-ce que ces lettres-là sont disparues, celles de votre grand-père ?
Oui, certainement, elles sont perdues. Je sais que pendant la guerre, quand Romain Gary vivait chez Leslie Blanche, celle qui est devenue sa première épouse, il habitait chez elle et je crois que cette maison a été bombardée. Et donc, tout a disparu. Donc, probablement, s'il avait avec lui des lettres, de la correspondance, tout a disparu. En tout cas, de cette période-là. Voilà.
Merci beaucoup, Charlotte Norberg. Je rappelle que Lettres à Sigurd, 1937-1944, de Romain Gary, donc des inédits que vous avez préfacés, vient de sortir chez Gallimard. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir, Marie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, une enquête de Libération revient sur les accusations de viol à l'encontre du rappeur L'Homme Pâle.
Oui, alors qu'il avait été déjà visé par 3 plaintes pour viol qui ont été classées sans suite en janvier dernier, le rappeur L'Homme Pâle est à nouveau accusé de faits similaires. On apprend ainsi que 2 femmes dont la plainte était classée se sont constituées partie civile, ce qui relance la procédure. S'ajoutent également 2 nouveaux témoignages qui viennent corroborer les récits des précédentes plaignantes. Pour le moment, ces 2 nouvelles victimes ne souhaitent pas porter plainte, un de leurs avocats précise. Le processus judiciaire est si long et pénible que certaines plaignantes préfèrent ne pas poursuivre de peur d'être à nouveau confrontées à la violence d'une machine qui parfois abîme plus qu'elle ne protège.
Cinéma à présent, un accord historique vient d'être signé entre auteurs et producteurs.
Oui, depuis plusieurs années, un projet entre scénaristes et producteurs de cinéma était dans les tuyaux, signé sous l'égide du CNC par les principaux représentants des 2 professions. Cet accord garantit à présent une rémunération minimum pour les scénaristes de films, fixée à 17 000 euros, et même si le projet n'aboutit pas. Il offre aussi une rémunération complémentaire selon les financements obtenus pour la réalisation du long métrage et propose par ailleurs un intéressement aux recettes si le film est amorti. À une époque où le métier de scénariste est menacé par l'IA, l'accord promet enfin une meilleure visibilité de l'identité des scénaristes, notamment au générique et sur les affiches des films.
À la foire du livre de Francfort, les éditeurs français sont unis face aux difficultés du secteur.
Le magazine Livre Hebdo revient sur l'édition en cours de la foire du livre de Francfort, l'événement le plus important pour le secteur. L'ensemble des éditeurs français se sont retrouvés pour évoquer les craintes qui agitent la profession. En premier lieu, la question de l'intelligence artificielle qui menace les auteurs, traducteurs, mais aussi les éditeurs. L'autre sujet de préoccupation de la filière est la concurrence du marché du livre d'occasion. Les professionnels demandent ainsi la mise en place d'un droit d'auteur sur les livres dits de seconde main. Et enfin, les spécialistes ont exprimé leur inquiétude face aux baisses de subventions qui risquent de toucher le Centre national du livre, alors que le chiffre d'affaires du secteur a baissé d'1,5% en France l'an passé.
Et pour finir, Marie, la Freda Mania n'en finit pas de faire vendre.
L'écrivaine américaine Freda McFadden, véritable phénomène littéraire aux plus de 7 millions de livres vendus, continue de dominer le marché français. Son dernier livre, Le Boyfriend, publié le 8 octobre dernier aux éditions City, se classe ainsi en 2e position des ventes cette semaine. La première place du classement est aussi détenue par l'autrice avec la version poche de son best-seller La femme de ménage voit tout. Dans un tout autre registre, le 3e place est détenu par l'homme politique Philippe Devilliers pour son essai succès, Populicide, paru chez Fayard, qui a vendu près de 30 000 exemplaires en moins de 8 jours.
Merci Marie, on se retrouve lundi pour de nouvelles actualités culturelles.
À lundi, bon week-end.
Bon week-end. En attendant, il est 13h et vous écoutez les Midis de Culture.